J'ai à cœur de vous parler des alliances de Dieu avec les hommes. Rassurez-vous, je ne vais pas les passer en revue. Mon temps alloué serait largement dépassé. Quand vous lisez la Bible, quand vous entendez des prédications, vous entendez souvent parler d'ancienne et de nouvelle alliance. Au même titre que vous entendez parler d'Ancien Testament et de Nouveau Testament. C'est logique, puisque le terme grec qui désigne l'alliance ancienne est le même pour dire l'Ancien Testament. Et la Bible, en effet, nous parle de plusieurs alliances, mais je me focaliserai plutôt sur une seule, qui est celle dite avec un nom scientifique, Abrahamique, plutôt, comme celle faite avec Abraham. Mais on sait qu'il y a eu, bien sûr, l'alliance avec Moïse au désert, précédemment à Noé, après, suite au déluge, et bien sûr, la nouvelle alliance en Jésus-Christ. La nouvelle alliance, celle que Jésus-Christ a instaurée, est d'une telle qualité, d'une telle dimension, puisque basée, scellée par le sang du Christ, qu'elle est capable de nous greffer, de nous souder, pour ceux qui sont plus dans la technique que dans l'arboriculture, de nous souder intimement aux chrétiens qui ont bénéficié de l'ancienne alliance, de l'alliance typique avec Abraham. D'ailleurs, je suis bien sur le bouton droit. Tu me dis? L'épître de Paul aux Galates nous dit que la bénédiction d'Abraham a eu pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous avons reçu par la foi l'Esprit Saint qui était promis. En fait, sous l'ancienne alliance, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai dans un coin de la tête qu'il fallait obéir à la loi pour être sauvé. Et c'est faux. La grâce était déjà présente, la loi n'était là que pour annoncer la grâce, et le fondement du salut, c'était la foi. En Genèse 15, il est dit, pour parler d'Abraham, qu'il crut en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Déjà dans l'ancienne alliance, ce n'était pas le fait d'observer la loi qui conduisait au salut, mais c'était celui d'avoir la foi en Dieu. Et c'est tous les récits de Hébreux 11 qui nous parlent des héros de la foi. Pourtant, je pense que pour vous comme pour moi, qui êtes ce qu'on appelle des gens des nations, c'est-à-dire non-juifs, vous n'avez pas été instruits de la langue, ou plutôt de la loi judaïque, c'est-à-dire des juifs. Et ça nous est donc fort difficile de comprendre l'échelle d'une alliance avec Dieu. Alors, pour expliquer le mot « alliance », il y a plusieurs mots usuels qu'on utilise, le genre de mot « contrat ». Ok ? Le mot « contrat », c'est un pâle aperçu du contenu réel. Pourquoi ? Parce que je pense que vous avez tous signé des contrats dans votre vie, ne serait-ce qu'un contrat d'assurance. Et puis, il y a un paragraphe, souvent à la fin en petit, qui s'appelle « résiliation du contrat ». Cela indique donc que le mot « contrat » indique une alliance temporaire pouvant être supprimée, annulée. Ce n'est pas le cas des alliances divines. Elles sont éternelles puisque l'Épître de Jacques nous dit que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, Dieu, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alors, on utilise aussi un autre mot facile qui est le mariage. Et d'ailleurs, hein, qu'est-ce que j'ai au doigt? Qu'est-ce que vous avez beaucoup? Une alliance, tout simplement, qui rappelle à vous-même si vous aviez oublié. Hein, des fois, moi, je suis obligé de la enlever pour voir la date à l'intérieur. J'exagère un peu, hein, mais ça sert, ça peut servir. Mais en tout cas, vous êtes d'accord avec moi que tous les gens de la société, s'ils voient votre main, se disent « Cet homme, cette femme est marié. Il a conclu une alliance. » Alors, c'est juste si on en reste au mariage originel voulu par Dieu. Et d'ailleurs, dans ce mariage originel, j'ai parlé de greffe, de soudure, mais c'est exactement ce que a dit Dieu quand il a dit qu'ils seront une seule chair, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de lien, d'alliance plus étroite que celui de la chair entre deux conjoints dans un couple. D'ailleurs, Jésus va lui-même affirmer cela en disant qu'il est l'époux et que l'Église est devenue son épouse. Donc vous voyez que ces notions d'alliance se retrouve en effet, par exemple, dans le mariage. Mais alors là où on commence à discerner que nous avons de la peine, nous, païens, anciens païens des nations, à comprendre vraiment, à rentrer dans la signification d'une alliance avec Dieu, c'est que nous, on parle toujours de faire alliance. Hein, j'ai fait alliance avec un tel. Or, la Bible parle de couper une alliance. Alors, moi, couper une alliance, ça veut dire que, voilà, que je la coupe. En fait, c'est déjà le symbole de la circoncision. La circoncision, ça consistait à donc circoncire un jeune garçon quand il était né dans la maison, et cette alliance était dans la chair et elle était une alliance perpétuelle. Vous êtes d'accord? On ne pouvait pas revenir en arrière. Alors, tout ce que je vous raconte, ça doit vous sembler peut-être très bizarre. Hein, c'est vraiment pas de notre temps, mais vous allez voir, je pense que la Bible contient des richesses fondamentales et qu'il faut faire attention, et notamment de lire l'Ancien Testament qui nous éclaire, qui nous illustre le Nouveau Testament. Et pour comprendre un peu mieux, rentrer un peu mieux dans la dimension magistrale d'une alliance avec Dieu, je vous invite à regarder ce qu'a été l'alliance de deux jeunes garçons, celui de Jonathan et de David. Cela est très étonnant déjà. Et faites attention, vraiment, focalisez-vous sur chacune des composantes. Vous avez affaire à un futur fils de roi, enfin futur roi, fils du roi, Saül, et un berger, le dernier du petit de la famille d'Isaïe. C'est déjà une alliance étonnante. Ok ? Et alors, on lit en 1 Samuel 18, c'est cela. Jonathan, donc ce fils du roi Saül, s'attacha à David et l'aima comme lui-même. Il l'aimait comme lui-même, dit même le, répète le verset suivant. Il donna tous ses attributs de fils de roi. Cet attachement, cet amour fraternel était si fort que d'ailleurs lors du décès de Jonathan, qui a été tué la même journée que son père Saül, David dira « Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable. » Alors, dans le temps qu'on vit, je suis obligé de rajouter cette phrase qu'on parle d'amour fraternel et non pas d'amour sexuel. Hein, parce que ce verset est utilisé pour même des églises qui dérivent par rapport à l'homosexualité. Alors, je ne vous raconterai pas, je ne démarrerai pas que la langue française n'a qu'un seul mot pour amour, alors qu'il y en a trois dans la réalité, dans ses composantes diverses. Jonathan avait reconnu en David, accepté que David serait le futur roi d'Israël, Et loin de se rebeller, de s'opposer à cela, ce futur prince héritier va en fait déjà, dans sa jeunesse, transférer à David tout ce que représente son trône à venir, ses attributs. Et cette alliance, elle n'a pas été une alliance du tout facile. Elle se terminera, comme on vient de le voir, par la mort même de Jonathan. Mais cette alliance, en fait, les a accompagnés dans les pires moments de leur vie. Jonathan dira en 1 Samuel, « Je ferai pour toi tout ce que tu voudras. » Jonathan dit plus loin, « Loin de moi la pensée que je ne t'informerai pas si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menace de t'atteindre. » En effet, le roi Saül avait décidé d'éliminer David. Et Jonathan, imaginez la scène, hein, a été tout le reste de sa vie le médiateur, on va dire, l'intercalaire entre son père qui voulait assassiner David et David, son cher allié. Alors vous me direz, ça n'a pas dû être facile. Hein. Mais quelle était une telle alliance pour porter de tels fruits et avoir tels effets? Alors, une alliance entre deux individus était quelque chose d'extrêmement sérieux. Lorsqu'il coupait une alliance, il s'engageait, pour reprendre une expression du mariage qui était citée dans le passé, pour le meilleur et pour le pire. C'est toujours valable, et comme disait la blague, il y en a qui disaient « j'ai connu le pire, le meilleur est peut-être à venir ». C'est peut-être pour ça qu'on la cite moins. Littéralement, quand ils coupaient une alliance, ils donnaient leur vie à l'autre. Et pourquoi parler et revenir sur ce terme de « couper » ? Tout simplement, j'ai parlé en effet de symbole de la circoncision, mais on revient toujours à ce thème central de la parole de Dieu, qu'une alliance impliquait le sang, que le sang devait couler. Et donc, on lit ceci en hébreu, « C'est avec du sang que même la première alliance a été inaugurée. » Bien sûr qu'on savait, et on y reviendra, que le sang de Christ est là au centre de la nouvelle alliance, mais déjà dans la première, c'était ça. Et alors, est-ce que vous avez idée comment se passait une alliance entre deux hommes? On va le revoir de façon de le certifier en Jérémie. En fait, ces deux hommes, David et Jonathan, ont pris un animal, ils l'ont coupé en deux. Vous imaginez les deux morceaux, le sang a coulé en terre et les deux sont passés au milieu des deux animaux. Bon, vous me dites... Vous allez dire, d'où tu sais ça, toi? C'est encore une rumeur de l'époque. Hein? Ben non, parce que ce cérémonial, il est même repris en Jérémie 34, où il est dit, Dieu dit, « Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ses morceaux. » Confirmation biblique. Ce n'est pas une rumeur de l'époque, même beaucoup d'années plus tard, le prophète Jérémie confirme la méthode. Et on revient et on arrive à l'alliance avec Abraham. Alors vous savez, à l'époque, ça se joue à deux chapitres près, il s'appelait Abraham. Ne m'en voulez pas, je citerai souvent le mot d'Abraham parce qu'on l'a plus en tête. Et donc, on voit en Abraham, vraiment, sceller une alliance et que cette méthode dont Jérémie nous a parlé va être confirmée par Dieu et que Dieu va, j'ose pas y dire s'y soumettre, mais va rentrer dans la même application. Et on lit ceci. Abraham prit tous ses animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Écoutez bien, on va revenir. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes, symbole de Dieu, qui passèrent entre les animaux partagés, verset 18, et ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Petite parenthèse, remarquez ici qu'Abraham n'est pas passé, lui, au milieu des animaux. Nous avons affaire à une promesse de Dieu, une promesse unilatérale. Dieu ne lui demandait pas un engagement, c'est Dieu qui s'engageait de façon unilatérale parce qu'il lui promettait toute une série de bénédictions. C'est pas tout. D'après l'histoire de l'époque, nos amis Jonathan et David, vous savez, ce sont des guerriers, hein. Alors couper un animal en deux, un veau, c'est pas un problème, hein. Mais ils ont fait plus que cela. Ils se sont entaillés la paume des mains, ou d'une main en tout cas. Pourquoi? Parce que, selon l'histoire biblique, déjà à l'époque, on se saluait comme ça. Et alors, ce salut devait indiquer l'alliance qui avait été contractée. Mais vous allez me dire, une cicatrice, ça s'efface. Alors, selon l'histoire, en fait, dès qu'il s'était entaillé la main, il mettait de la cendre dessus, ce qui altérait la cicatrisation et qui faisait que la cicatrice était toujours visible. Et donc, cette alliance contractée, elle avait deux pistes ou deux chemins très importants. En face de leurs amis, c'était « Salut, tu te rappelles ?» Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes solidaires. Et en face des ennemis, c'était « Attention, je ne suis pas seul. J'ai un allié. Un allié qui est prêt à me défendre jusqu'à la mort. Si tu m'attaques, moi, tu auras affaire à lui et moi. » Vous vous rendez compte de la portée de l'alliance? C'était pas un contrat chez un notaire, c'était directement sur la main, visible à chaque moment, à chaque circonstance de la vie. Lors de la nouvelle alliance, à Golgotha, le sang du Christ a coulé en terre. L'agneau de Dieu, le Christ Jésus, est mort. Et il a signé son alliance avec les hommes, comme au temps d'Abraham ou de Jonathan et David. Et Dieu a certifié cette alliance par sa résurrection le troisième jour. Il était environ la sixième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Rappelez-vous la scène de l'alliance avec Abraham, le soleil s'est couché, la terre s'est obscurcie. Jusque de la sixième à la neuvième heure, soit 12h à 15h, le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira par le milieu. Je dis souvent que dans la parole de Dieu, les mots sont comme au Scrabble, ils comptent double ou triple. Le voile de temple s'est déchiré du haut en bas, de Dieu vers les hommes. Et pas des hommes vers Dieu. L'œuvre de la grâce, le salut, arrivé de Dieu vers les hommes. Et d'ailleurs, c'est la suite d'un autre verset auquel les Juifs posent cette question à Jésus, mais qui pourrait être sauvé? Et en effet, il est impossible aux hommes d'atteindre la gloire de Dieu, dit l'Évangile. Et il faut que, en Jésus-Christ, sa gloire soit descendue vers les hommes et que le voile du temple du lieu trois fois saint soit déchiré de haut en bas. Les marques de Jonathan et de David, selon la coutume, sont restées toute leur vie dans leurs mains. les marques de Christ aussi. Jésus porte les marques de, dit l'Apocalypse 5, d'un agneau comme immolé, comme sacrifié. Il porte les marques, il dira à ses disciples au lendemain de sa résurrection, « Voyez mes mains et mes pieds. » Et vous savez que c'est l'écho d'Ésaïe 49, « Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Le nom des hommes sauvés sont gravés sur les mains de Christ. Un tel niveau d'engagement du divin ne peut que me sécuriser en tant qu'humain, puisque Christ est l'époux et que je suis l'épouse, je suis au centre d'une alliance extraordinaire dont je n'arrive pas à réaliser la portée. Je n'arrive pas vraiment à comprendre, à réaliser que Dieu est le garant de cette alliance, qu'il en a mis le sceau par la résurrection du Christ et que les marques du Christ sont toujours là pour me dire qu'elles sont le cachet inaltérable qui certifie l'accord éternel. Plus que cela dans l'histoire de Jonathan et David, il y a le parallèle extraordinaire, je vous ai dit, Jonathan, fils du roi, et David, simple berger, le petit dernier de la famille. Mais il y a un parallèle entre Jésus, le fils de Dieu, et Jonathan, le fils du roi. Nous allons voir pourquoi on est autorisé à accepter, à parler de ça. En 1 Samuel, il nous est dit que Jonathan ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna tous ses habits ou ses vêtements, selon les versions, même son épée, son arc et sa ceinture. Avez-vous réalisé ça? Imaginez-vous, vous êtes en somme en train de donner tous vos attributs. C'est un dépouillement total. C'est une perte d'identité. Qu'est-ce qu'il faisait l'identité d'un roi? Ses vêtements somptueux. Il est dit dans d'autres textes qu'il n'y avait plus que deux épées en Israël, que les Philistins, ils avaient tout raflé, que celle de Saül et de Jonathan, son fils. Jonathan descend, ayant reconnu le nouveau roi voulu, choisi par Dieu. Il donne son identité, il donne sa sécurité à travers l'épée, à travers l'arc, et il donne même sa force, sa ceinture. Il y a un dépouillement intégral de Jonathan dans l'alliance qu'il fait avec David. Christ fit la même démarche avec les hommes. Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Plus que ça, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. D'accord, plus que ça, jusqu'à la mort de la croix, ultime, infamie. Et à la croix, Christ a échangé ses vêtements contre les nôtres. Il nous a donné sa robe de justice et elle a été revêtue de la robe de notre injustice, souillée par le péché. Et nous lisons ceci, bien sûr, dans ces textes bien célèbres, comme le fils prodigue, le père dit « Apportez vite la plus belle robe, l'en revêtez ». Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, moins connus peut-être, mais encore plus, je dirais, explicites. On se rend mieux avec le sacrificateur Josué en Zacharie. Or, le sacrificateur Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait devant l'ange de l'Éternel. Vous savez que l'ange de l'Éternel, dans la Bible, c'est presque toujours le symbole de Jésus-Christ. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Êtes-vous tous de ceux qui pouvaient dire que Jésus-Christ a enlevé votre iniquité et qu'il vous a revêtu de vêtements de fête? Si ce n'est pas le cas, vous perdez votre temps ici. Vous auriez mieux fait comme de faire comme dans notre commune de Chassieux où il y a des adeptes du jogging tous les dimanches matins. Pierre l'a dit, nous ne sommes pas dans une cérémonie. Nous sommes dans une rencontre dans laquelle nous allons nous rappeler de l'alliance que nous avons contractée avec le Christ. C'est ça qui est important. Et Apocalypse dira encore pour l'avenir, qui sont-ils et d'où sont-ils venus, ces gens de toutes les extrémités de la terre et qui ont des robes blanches? Et l'ange dira, ou les vieillards plutôt, ce sont ceux qui ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau Christ. Étonnant de blanchir du linge dans du sang. Peut-être que ça nous parle que, encore une fois, s'il était besoin, les méthodes de Dieu ne sont pas celles des hommes. Que le voile a été déchiré de haut en bas, parce que c'est impossible qu'il soit de bas en haut. Et en effet, on ne peut laver son âme que dans le sang du Christ. Allons plus loin dans cette explication de Jonathan. Dieu nous donne ses armes et sa ceinture. Jésus revêt l'homme nouveau de sa force pour combler sa faiblesse humaine. Jonathan a donné son épée et son arc. L'Évangile, le Nouveau Testament, nous dit en Éphésiens 6 que la force de Jésus, les armes de Jésus, nous sont distribuées. Ce sont tout le descriptif des attributs que Jésus peut nous donner. Quel bonheur pour nous de mieux réaliser l'échelle de la grâce de Dieu. Les mains levées de Jésus nous disent encore aujourd'hui, selon les psaumes, je ne vous ai pas tous cités, enfin, oui, mis sur vidéo, diapo parce qu'il y en a trop. Tu n'es pas seul, je viens à ton secours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tes ennemis sont mes ennemis. Il dira dans un autre psaume, j'ai été dans la tempête, dans la détresse avec eux. Jésus ne regarde pas la détresse de haut et dit, bon, j'espère qu'il va s'en sortir. Jésus vient dans la détresse, dit le psaume, avec nous. Il participe à notre détresse. Ces versets si connus, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Et en bouquet final, écoutez et voyez combien l'Éternel est bon. Alors en conclusion, il serait injuste de ne pas dire quelques mots sur notre part dans l'alliance, dans le contrat. Et l'apôtre Paul nous a donné la voie quand il a dit, en parlant des marques de l'alliance, je porte sur mon corps les marques de Jésus. Ah, c'est sûr que Paul, au sens propre, était, je suis sûr, bien placé pour porter les marques de Jésus. C'est les versets suivants qui nous disent qu'il a été trois fois battu de bâtons ou de verges, qu'il a été lapidé. Trois fois, il a fait naufrage. Et il a même passé un jour et une nuit dans l'abîme, on peut penser dans la mer. Alors c'est sûr que l'apôtre Paul portait, je pense, au sens propre, les marques. Parce que quand vous avez pris tant de coups, vous en gardez peut-être des cicatrices ou en tout cas des blessures internes. Hein. Il avait peut-être le dos qui fonctionnait mal ou des bras douloureux à certaines périodes ou moments. Mais il parle aussi dans la suite du verset, au sens spirituel, au verset 28, « Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. » C'est qu'un exemple. C'est qu'un exemple. Alors nous qui sommes rentrés dans cette nouvelle alliance, est-ce que nous portons sur nous les marques de Jésus ? Non pas des cicatrices physiques, peut-être, dans nos pays d'Occident, mais est-ce que nous portons les marques de Jésus quant à notre engagement spirituel et en effet à la charge que représente suivre Jésus ? Est-ce que nos actes sont empreints des marques de Jésus ? Est-ce que mon langage, mes paroles sont empreintes de la nouvelle alliance? Est-ce que mon comportement ressemble à celui de Jésus? Est-ce que mon témoignage est clair et non pas ambigu? Car à ce moment-là, il ne sert plus à rien. Vous savez, il y a quelques années, donc à l'église de Chassieux, comme on vous l'a dit, il y avait un missionnaire américain au Estuquer et il disait « Un chrétien, c'est Jésus en t-shirt et basket. » Vous vous rendez compte l'image ? C'est pas Jésus tout court, mais c'est un petit Jésus en t-shirt et basket. Si j'avais été, comme il y a 30 ans, moniteur du groupe d'ados, j'aurais conclu pour les impressionner avec un petit tour de passe-passe et je me serais fait une croix autocollante rouge et je leur aurais dit « Les amis, est-ce que la croix du Christ est chaque instant une marque dans notre vie comme part auquel je dois prendre part de la nouvelle alliance que Christ a conclu avec moi. Que par la grâce de Dieu, son œuvre dans votre vie, dans ma vie, fasse que je sois, on va dire, capable, ou je sois respectueux de cette nouvelle alliance, et que je la porte sur mon corps et dans ma vie. Amen.